On reprend toujours avec l'exemple des business que tu as déjà mis en œuvre. Tout à l'heure, c'était un exemple d'un business qui était plutôt successful, donc un exemple concluant. Mais est-ce que tu pourrais également partager avec nous un cas d'échec que tu as rencontré? Parce que tu as cité le business que tu as déjà. Certainement, dans ton expérience d'entrepreneur, tu as sûrement rencontré une fois un échec d'un business où tu avais peut-être investi du temps ou de l'argent. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé?
D'accord. Donc, je vous dis, il y a effectivement un business que j'ai lancé qui n'a pas marché. En fait, si vous voulez, c'était un business à travers lequel j'aurais fourni un service de livraison de nourriture dans la zone de Vallon, de Plateau, voilà, qui est une commune au niveau d'Abidjan. Donc, tout est parti du fait que je me suis aperçu que c'est une zone aujourd'hui qui est devenue un peu comme on va dire un mini-centre des affaires. Il y a beaucoup de bureaux et beaucoup d'entreprises qui s'y sont installées. Je suis aperçu qu'avec la charge de travail de tout un chacun, on n'a pas toujours le temps, hein, dès qu'il est midi, de se lever, aller chercher à manger. Et puis finalement, on arrive à 14 heures. Je n'avais pas aussi vu de service de livraison de repas qui s'amenait dans nos bureaux pour nous proposer des repas, tout ça. Bon, je me suis dit, attends, mais pourquoi ne pas essayer ça? Et donc, après, il fallait chercher le business model, c'est-à-dire comment faire. Est-ce que on s'appuie sur des dames qui ont déjà des restaurants où on part récupérer de la nourriture, donc c'est leur menu qu'on présente. Et donc, nous, on n'aurait pas uniquement que les véhicules qui partent récupérer et fournit les repas aux clients. Donc, on serait vraiment ici en intermédiation. Ou est-ce que le mieux serait pas nous-mêmes de préparer les plats, les repas là, fournis à nos livreurs et puis les acheminer. Donc, la première des choses qu'on a eu à faire sur laquelle ça n'a pas marché, c'était qu'on s'appuyait sur des dames qui avaient déjà des restaurants. Et ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous voulez, ces dames-là avaient quelques contraintes. Elles préparent soit leurs plats à l'avance, elles ont des clients qui mangent sur place déjà dans leurs locaux, dans leur restaurant. Et donc, toi, tu peux avoir une commande lorsque tu viens et le repas, il n'y en a plus. Donc, ton client te dit, tu présentes le menu à ton client, il te dit, ah, moi, je veux du tchap poulet. Tu dis, ok, je veux du tchap poulet, tu appelles pour de l'autre côté. Un tchap poulet pour moi, on vous dit, tchap poulet est fini. Donc, tu appelles le client, tu lui dis, ah, désolé, tchap poulet est fini, mais tu as pris le soin de demander qu'est-ce qu'il y avait. Donc, quand tu vas venir lui dire que voilà ce qu'il y a désormais, il va te dire, je veux de ça. Dès que tu rappelles de l'autre côté, il te dit, bon, il est fini, ça vient de finir. Et puis, tu rentres dans un
Catastrophe
cycle infernal comme
infernale.
ça. Et puis après, quand tu t'assieds, tu te dis, mais est-ce que le mieux ne serait pas que moi-même, je prépare mes repas? Donc là, au moins, j'ai une mainmise sur ce que j'ai, je ne suis pas en train de faire des va-et-vient, voilà. Et puis tu commences à faire ça et tu t'aperçois que tu t'aperçois que les clients soit décident de te passer une commande, soit aux environs de 11h30 midi, parce que tu n'as pas envie d'imposer aux gens ce qu'ils vont manger. Donc tu leur envoies un menu là pour la semaine. Et lorsqu'ils te passent commande, soit obligé de réchauffer des choses que tu avais déjà pris, qui étaient pré-cuites. Je vais de réchauffer. Donc souvent quand tu apportes, ce n'est pas très frais, alors qu'il y a des personnes qui sont très très pointues sur la qualité des repas. Donc quand tu fais le survey de satisfaction, tu n'as pas forcément de bons retours. Après tu dis, bon, ok, je veux désormais que ce soit des trucs frais, donc que je vais préparer le jour même en question. Et donc, pour adresser cette problématique, tu as envie de recevoir les commandes la veille pour pouvoir prévoir la quantité que tu vas préparer. Mais les clients ne veulent pas dire un jour plus tôt ce qu'ils vont manger le lendemain. Parce que pour eux, manger, c'est quelque chose qu'ils font parce qu'ils doivent faire. Ils veulent pas rêver à ce qu'ils vont manger le lendemain. Non, non, non. Chaque jour a une couleur. C'est-à-dire, la veille, il ne se dit pas, bon, demain midi, moi, j'ai envie de manger à checker. Non, c'est quand il se réveille là, il est là et puis il a envie de
C'est
manger
au
à checker.
feeling en fait,
C'est au
c'est au feeling.
feeling. Donc, tu ne peux pas contraindre les gens à faire ça. Du coup, quand tu te lances comme ça dedans, tu leur dis, bon, ok, même si vous ne le faites pas la veille, est-ce que vous pouvez le faire à 9h, 10h pour que nous, on commence déjà? Et tu as des gars qui ne le font pas. Donc, tu arrives souvent à 11h, tu commences à préparer, tu vas finir peut-être à 12h30. Or, si tu ne livres pas les repas entre midi et 13h, les gens, il y a de fortes chances qu'ils aillent voir ailleurs. Parce qu'il y a des entreprises qui n'ont des pauses que d'une heure. Donc, ça devient un peu compliqué. Donc, il fallait pouvoir trouver la méthode. Après, on a trouvé, je pense, un filon. Lorsqu'on s'est lancé dans ce filon-là, la problématique, c'est qu'on avait tellement de commandes que le seul véhicule pour la livraison des repas ne suffisait plus. Donc, imaginez-vous un seul instant qu'il faut un véhicule pour livrer 10 repas à temps dans la zone du Vallon. Cela signifie que si tu as un 11e repas, ce dernier-là ne pourra pas forcément assurer parce qu'il arrivera peut-être autour de 13h15, tout ça, c'est pas bon. Parce que tu fais le décompte, hein. Tu te dis, il faut pour une entreprise 10 minutes ou 15 minutes qui va passer là pour le repas. Donc, tu te rends compte que juste pour une autre commande supplémentaire, il te faut acheter un véhicule et te prendre un livreur. L'investissement est trop gros pour ça. Sachant que tu peux avoir ta moto, ton livreur que tu payes, on va dire un griffe ici avec un salaire fixe parce que tu t'attends à ce que ce soit quelque chose de rentable parce que c'est pas lui qui fait la nourriture. Donc, s'ils n'ont pas commandé, tu peux pas lui décider de le payer sur la base des repas vendus parce qu'il n'est pas commercial. Donc, tu mets un truc fixe pour lui. Et puis, il arrive des fois où on te dit, bam, aujourd'hui c'est férié. Ou bien, bam, il y a une émeute quelque part là. Donc, le lendemain, personne ne veut sortir. Et puis, toi, tu te retrouves là avec un service que tu ne peux pas délivrer. Donc, voilà, c'est là que tout n'a pas marché. Après, on s'est dit, mais bon, plutôt que d'investir nous-mêmes dans les équipements pour livrer, donc la moto et le livreur, pourquoi est-ce qu'on ne sous-traiterait pas cela à une entreprise qui est dédiée qu'à la livraison? Et là, le problème, c'est que l'entreprise qui est dédiée qu'à la livraison ne va pas te dédier son
C'est
livreur.
ça, c'est
Et
ça.
ils n'ont pas, on va dire, la même visibilité, on va dire, la même compréhension de tes KPI, tes indicateurs de performance. Donc, eux, à la fin de la journée, ils sont pas forcément dans le formel. Tu peux pas signer des SLA avec eux. C'est compliqué. Donc, ils vont te foutre, on va dire, ton business en l'air.
Mais ça là, il y a
Donc,
pas de
voilà
business.
encore une autre, voilà encore une autre problématique. Et donc, au finish, je veux dire, c'est vrai qu'on a pensé avoir l'idée qui aurait marché, mais on ne s'est pas lancé là-dedans. Parce que pour nous, au finish, on a compris que la restauration, c'est soit tu fais de la livraison, que de la livraison de repas de personnes, mais c'est pas toi qui présente les menus, mais toi tu vends le service, tu vends un service de livraison. Soit tu as un restaurant où tu sais faire manger des gens là, et puis aussi assurer un service de livraison, peut-être avec tes propres livreurs pour des personnes qui ne voudraient pas venir dans le restaurant pour manger. Et donc, pour nous, pour faire court, même si je sais que j'ai été long, ça a été un échec qui nous a appris énormément. Et ça nous a permis également, je dirais, ça m'a permis également d'avoir beaucoup d'humilité quant à l'appréciation des business qu'on dit pouvoir marcher. Parce que souvent, on a une certaine assurance et notre assurance ne tient pas compte de l'échec d'autres personnes. Alors, il faut
C'est
avoir
ça.
l'humilité de se rapprocher de ces personnes-là. Vous leur demandez, mais vous avez commencé, pourquoi vous avez arrêté? Et vous comprenez, vous conviendrez avec moi que je me serais rapproché des personnes qui, je sais, avaient commencé ces choses. Ces personnes m'auraient présenté leurs problématiques. Ça aurait été des notions et ça m'aurait évité de faire la même chose, d'essayer
Exactement.
de réinventer la roue. Voilà.
Ouais, normalement.
C'est ça.
Ce qui a bien dit, Prince, moi j'aimerais savoir, parce que je sais que tu travailles, tu es un employé, tu es, je pense, directeur des opérations à Neuron, mais en plus tu as vraiment un chapelet de business, pour ne pas trop exagérer. Donc comment tu fais pour concilier ton business personnel et puis ton travail en entreprise?
Ok, comme tu as parlé de chapelet, je dirais, est-ce que tu te souviens de cette parole de ces personnes qui un jour ont brandi une pièce devant un personnage qui est très connu et ils ont dit, à qui devons-nous payer l'impôt?
Oui, je me souviens. Il
Il
faut rendre à César ce qui est à César.
faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc pour moi, c'est ça. De 8h à 18h, c'est pour César. Et après, et pour moi, César, c'est mon employeur. je lui dois cela. Je lui dois cela, okay. C'est écrit dans mon contrat. On dit 8 heures, du 8 heures, ça lui appartient. Okay. Mais après 8 heures, là, c'est maintenant que moi, je peux réfléchir sur mon business, essayer de le développer. Et il faut que je m'accorde en ce moment-là du temps pour pouvoir le faire. Parce que si je ne m'accorde pas du temps pour pouvoir le faire, ça ne pourra tout simplement pas décoller. Donc, c'est ça. Il faut donc sacrifier un certain nombre de choses parasites. Donc, pour ceux qui ont déjà été dans l'école appelée INP, on parle très souvent de spiritage.
Yeah, c'est-à-dire, c'est ça.
C'est-à-dire éviter des choses qui peuvent t'empêcher d'avancer vers ton but. Et ça, c'est quoi? Ce sont des causeries qui n'en valent pas forcément la peine. Ce sont des détours à la descente qui n'en valent pas la peine. Ce sont des vidéos sur Internet à regarder qui n'en valent pas la peine.
Comme les anglophones le disent, don't waste your time.
Exactly. Donc, il ne faut pas waste on time, mon frère. Faut pas, c'est ça. Il faut vraiment être focus. Hein. You have to be focused on what you want to do. Tu vois, c'est ça, quoi. Donc, non, c'est-à-dire, tu as les yeux qui sont totalement fixés sur l'objectif que tu veux atteindre et ça te permet d'identifier toutes les distractions qui veulent t'en empêcher. Et pour citer une des personnes qui est une figure de proue, on dira paix à son âme, Steve Jobs, il dit « La qualité de ton résultat dépend du nombre de fois que tu dis non dans la journée. » Voilà, donc il y aura énormément d'invitations à pouvoir faire des choses qui ne sont pas dans la droite ligne de ce que tu veux faire. Donc, tu auras des amis qui te passeront un coup de fil. Ah, mais yo, viens, on va s'asseoir, on va causer un peu, etc. Mais pour moi, je dis distraction. Donc, je dis non. Moi, il va te passer un coup de fil. Ah, mais qu'est-ce que tu fais actuellement ce samedi? Est-ce qu'on pourrait pas aller à Sini, tout ça? Moi, quand tu finis de me dire ça, je vois dans ma tête que, en fait, c'est pas que c'est mauvais de le faire parce que je serais aussi en train de kiffer de life, mais je me dis, c'est quelque chose qui peut attendre parce qu'il y a des gens qui ont besoin que je réalise un projet afin de pouvoir sortir aussi de la lamentation. Vous voyez, c'est un peu ça. Et puis après, comme je dis, à la fin de la journée, bon, c'est toi-même, hein, Djamou, qui a introduit le sujet du chapelet, donc je vais continuer. Comme je disais aussi au début, pour ceux qui sont qui ont une foi rattachée à une religion, tout ça, moi, dans celle que je pratique, on dit... Il y a une histoire qui relate le fait qu'à un moment, il manquait de vin à un endroit. Donc, ça veut dire qu'à un moment, il peut manquer de quelque chose à ce monde et il faut bien une personne pour pouvoir trouver la solution. Voilà. Et pour moi, c'est ça. Donc, ton objectif, tu l'as, qui est d'apporter une solution. Il faut que tu sois focus là-dessus pour pouvoir créer cette transformation-là, de l'idée d'avoir de l'eau afin de pouvoir transformer cette eau en vin.
Super.
Et tout le monde s'y réjouira.
C'est ça.
Voilà.
Je viens réjouir les cœurs. Mais moi, du coup, moi, j'ai une question à deux volets. Le premier volet, c'est un peu une continuité de ta réponse. Je voulais savoir, finalement, c'est quoi une journée typique de l'entrepreneur que tu es? Tu nous as dit déjà 8h à 18h, c'est à 6h. Mais après, tu t'arrêtes à quelle heure? Tu te couches combien de temps? Tes nuits durent combien de temps? Si jamais tu dors la nuit, je sais pas. Et le deuxième volet de ma question, c'est quels sont les challenges que tu es amené à surmonter en tant que personne à la tête de plusieurs entreprises? Donc, je suppose que déjà, tu peux pas être à la fois sur tous ces business-là, tu peux pas les suivre de près tous à la fois. Donc, quels sont les challenges que tu rencontres et comment est-ce que tu t'y prends pour les surmonter?
D'accord. Pour te dire, les heures auxquelles je vais me reposer, ça dépend. Voilà. Ça dépend de l'étape dans mon plan à laquelle je suis arrivé. Voilà. Si dans mon plan, je suis à l'étape de faire des inventaires ou de rechercher peut-être partenariat ou truc, ça peut prendre peut-être moins de temps, tout ça. Donc ça varie vraiment en fonction, ça varie vraiment en fonction de l'étape à laquelle je me trouve. Vous voyez? Et donc c'est ça. Donc après, je peux être à l'étape de get knowledge, c'est-à-dire obtenir de la connaissance. Et ça, c'est ce qui me prend très souvent beaucoup plus de temps, parce que ça peut me pousser à lire pendant un certain nombre d'heures ou à regarder des vidéos pour apprendre des choses, de nouvelles choses, pour acquérir de la compétence. Et c'est ça. Et très souvent, j'essaie beaucoup plus de maximiser sur les week-ends. Voilà. Dans les week-ends, je vais me donner des horaires spécifiques, donc qui sont de... J'aime peut-être me lever un peu plus tôt, 9h plus tard, le samedi, et puis après je tire quoi. Voilà, je tire peut-être vers 14h, après j'essaie de m'évader un peu dans les échanges avec certaines personnes. J'ai envie de dire, pour quelqu'un qui n'a pas de compagne, on peut dire il peut exagérer, mais quand tu as une compagne, il faut beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions avec elle pour qu'elle puisse comprendre que c'est un sacrifice temporaire que tu es en train de faire. Tu es en train de labourer et le jour où ça portera du fruit, vous ne ferez que cueillir ensemble. Et en ce temps-là, il n'y aura ni pleurs ni grincements dedans, il n'y aura que de la joie. Donc voilà, donc c'est ça. Donc il faut pouvoir concilier les deux. Comme je dis, c'est toujours partagé. Il y a César, il y a l'autre, il faut après. Donc tu me finis sur cette partie, comme je disais. Si jamais tu as une compagne, bon, tu sais qu'il y a un temps, il faut échanger, communiquer pour ne pas que cela vienne créer des frictions. Et puis, il faut avoir également le temps pour s'occuper de la famille. Donc, c'est une question d'organisation personnelle qui est discutée de façon collégiale avec les personnes qui
Ouais,
peuvent être
toutes les parties
impactées.
prenantes.
Toutes les parties prenantes, voilà.
OK.
Après, le dernier, bon, pour parler de l'autre partie, les challenges dont tu as parlé, pour moi, un des plus gros challenges, c'est de respecter ce que tu t'es fixé comme objectif. Et chaque fois, parce que tu as un objectif, tu sais que tu as un plan, tu sais voir le gap entre ce que tu as prévu faire et puis ce qui est réellement fait. Et c'est ça qui va créer à un moment une peine lorsque tu vas te rendre compte que tu en es très éloigné. C'est ça qui va à un moment te dire, ah tiens, je suis loin de ce que j'avais prévu, je m'étais dit en une semaine, là, ça fait 2 semaines, j'ai pas encore bougé. Et puis tu vas essayer de rattraper. Donc pour moi, c'est ça le plus gros challenge qu'il faut chercher à relever chaque jour, c'est-à-dire avoir la force de regarder son plan, regarder les actions qui s'y trouvent et faire le nécessaire pour les réaliser.
D'accord,
Tout à fait,
d'accord.
tout à fait. Je crois que tu as déjà parlé d'un de tes échecs dans le business,
Ouais,
dans
ouais.
l'entrepreneuriat, avec cette histoire de nourriture et autres. Mais peux-tu nous parler aussi d'un exemple de succès? Parce que nous, on veut beaucoup plus se concentrer sur le succès pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat.
Oui, en fait, moi je suis d'une école l'école de laquelle je suis, en fait, c'est peut-être aussi un conseil que je pourrais donner. Moi, je n'écoute pas les personnes qui n'ont fait que réussir
OK.
parce que je ne peux pas les prendre pour modèle parce que c'est quelque chose, ce sont des choses qui arrivent de façon, c'est très rare.
Yeah, c'est
Et
clair.
d'après tonton Einstein, il dit, quelqu'un qui n'a jamais échoué, il y a de fortes chances que la personne
N'ai
n'ait
jamais
jamais
réussi.
fait quelque chose de nouveau.
C'est ça.
Tu vois? Et donc, pour moi, on aurait même pu rester qu'aux échecs. Parce que c'est là-bas qu'on apprend énormément. C'est là-bas qu'on obtient la plus grande partie de l'expérience. Pour moi, l'échec a la valeur de. En fait, l'échec a la valeur du succès.
En
C'est-à-dire.
fait, l'échec même prépare au succès, si on veut dire.
Voilà, c'est ça. En fait, l'échec, c'est le prix que tu payes pour réussir. Voilà. Donc, l'échec, c'est pour ça que je disais dit tout à l'heure que l'échec a la valeur du succès. C'est-à-dire, c'est l'échec qui donne toute la valeur à ton succès. Il y a des choses que tu ne pourras jamais savoir si tu ne payes pas pour échouer. C'est pour ça que les personnes qui ne veulent pas se lancer en affaires parce qu'elles ont peur d'échouer, en fait, elles font mal parce que échouer, c'est un chemin, je dirais pas obligé, mais qui fait partie, qui est une partie intrinsèque du succès. C'est comme si on disait que Une plante ne peut pas pousser si la graine ne meurt pas. C'est pareil. Donc, la mort de la graine qui est mise en terre, c'est ça qui est vu comme l'échec. Mais de là, sort une plante qui peut par la suite porter des fruits. Voilà. Donc, ça, c'était la petite parenthèse.
Mmh.
Ça, c'est l'école dans laquelle je suis. Donc, pour dire, pour parler du succès, bon, tous les échecs que j'ai eus par le passé font que aujourd'hui, tout ce que je fais là, en tout cas, ça marche bien. Voilà. Donc, par la grâce de Dieu, hein, voilà, voilà. Là, on me rappelle de le dire. Hein. Mais sachez que même quand je ne serai pas en train de le dire, pour les prochains podcasts, c'est toujours une signature qui est invisible qui apparaîtra après mes propos. Voilà. Donc, au départ, la partie livre, je vous ai dit un peu comment est-ce que j'avais commencé, tout, avec Amazon. Ouais. Mais ça n'a pas forcément bien marché comme ça. Après, il fallait penser plutôt à un autre business model qui allait être beaucoup plus pérenne. Et c'est lui, j'ai envie de dire, qui, aujourd'hui, sur un peu plus de 2 années maintenant, connaît une certaine stabilité. Voilà. Pour moi, ça, c'est... Je peux dire aujourd'hui que sur la partie librairie, j'ai pu trouver le moyen ou le sillage par lequel je pourrais passer après certains échecs pour pouvoir stabiliser cette activité. Mais sinon, au départ, ce n'était pas aussi facile que ça. Voilà, tout ça.
Okay.
Pas parce que ce n'était pas quelque chose de porteur, mais parce que le modèle n'était pas simple et facile. C'est-à-dire que le modèle était dispendieux en ressources, dispendieux en temps, dispendieux en moyens pour pouvoir faire tourner le système, c'était fatigant.
Voilà. Voilà. C'est très intéressant lorsque cette notion de business model. Là, tu as donné 2 exemples. Il y avait l'exemple de la livraison de repas où vous avez essayé 2 à 3 business models. Mmh. Et tout à l'heure, tu as parlé de l'exemple de la librairie où le business model, le changement de business model a permis de rendre le business plus rentable.
C'est ça.
Donc, ce que je retiens, c'est que le business model aussi, c'est-à-dire l'idée qu'on a et le business model qui est associé avec peut évoluer et est même amené à évoluer par rapport à la réponse du marché, par rapport aux réalités auxquelles on fait face.
Ouais.
Et dans ce sens-là, c'est intéressant aussi peut-être de pouvoir échanger avec quelqu'un, par exemple un mentor, pour pouvoir aussi re-challenger son business model et ne pas forcément baisser les bras lorsqu'on est face au premier échec.
Exactement.
Et en même temps... Vas-y.
Oui. Non, pardon, pour ne pas te couper, j'ai envie de dire ta phrase telle que tu l'as formulée, il faut qu'on la garde quelque part parce que tu as très, très bien dit. C'est-à-dire que tu as mis d'un côté la réponse du marché et puis de l'autre côté, tu as mis les réalités. Parce que, tu sais, le marché peut bien te répondre. Ils peuvent même demander ton service. Mais les réalités, qui peuvent englober beaucoup d'autres choses, peuvent t'empêcher de répondre. C'est ça, tu vois un peu?
Oui.
Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas décoller dans leur business, non, parce qu'elles n'avaient pas non, parce que le marché n'était pas présent. Il y avait le marché, il y avait tout qui était disponible, il y avait des clients qui frappaient à la porte, ils disent on veut, mais ces personnes n'ont pas pu répondre à ces sollicitations, hein, parce que tout simplement, il y a d'autres réalités qui ne leur permettaient pas de faire face à la demande. Voilà. C'est ça.
Et c'est ce qui me permet d'atterrir sur un autre point. Aujourd'hui, avec le contexte du Covid-19, hélas 3 fois, plusieurs business ont dû mettre la clé sous le paillasson. Bon, j'aimerais que tu donnes un conseil. J'aimerais que tu nous conseilles nous-mêmes et que tu conseilles nos auditeurs. Peut-être que parmi eux, il y a des personnes qui sont très éprouvées par cette situation. Quels sont les conseils que tu pourrais donner pour que un propriétaire, un gérant de business puisse trouver des moyens pour rester résilient face à cette crise du Covid-19. Quel conseil tu pourrais nous donner?
Oh oui, en fait, d'accord. Si tu permets, je vais peut-être répondre à la question. Je vais la prendre sur 2 volets. Je ne veux pas qu'on regarde uniquement les gens qui ont des business qui sont affectés, mais est-ce qu'on pourrait voir aussi les personnes qui sont des employés qui sont affectés?
Oui.
On pourrait voir, voilà, ok. Parce que je pars aussi du principe qu'il y a peut-être des personnes qui écouteront le podcast, mais qui n'ont pas de business, qui sont des employés dans des entreprises qui sont impactées par le business. Donc, ces personnes-là, comment aussi elles auraient pu faire pour, je dirais, avoir la possibilité de ne pas sentir, on va dire, à 100% les effets de cette crise sanitaire. Donc, si je pars du principe, si je pars sur le volet d'abord des employés, je dirais, et ça peut-être que vous l'avez déjà entendu dans mes propos, mais pas aujourd'hui, une des raisons pour laquelle les gens ne se lancent pas, on va dire, dans l'entrepreneuriat, c'est qui les freine, qui même les empêche de chercher à se documenter et tout, c'est parce que le volet perte d'argent est un volet qui les effraie énormément. Je ne veux pas perdre de l'argent. Et moi, je différencie la peur de prendre des risques de la peur de perdre de l'argent. Parce que si on me parle de peur de prendre des risques, moi, je pars du principe qu'une personne qui n'a que son boulot comme source d'entrée d'argent, la personne, c'est prendre des risques. Et pour moi, ça, c'est le risque le plus élevé qu'une personne puisse prendre. C'est-à-dire, tu n'as qu'une seule entrée d'argent. Ça, c'est risque à 100%. Ça veut dire que ça, on appelle ça dans certains domaines, single point of failure. Ça veut dire que si ça, c'est down, c'est fini. Donc, tu prends des risques et tu es fort dedans même parce que tu peux être resté dedans 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Et tu n'as pas développé quelque chose qui pourrait être une autre source de revenus. Donc ça...
Ouais, tu me stresses.
Un backup. Il faut avoir un backup. Tu me stresses, ouais.
Non, ça veut dire que... Non, ça veut dire que ça, c'est l'expertise dans la prise de risque. Et s'il y a une nomination, tu peux être le patron de ça.
Le champion mondial.
Oui, le champion mondial. Donc, pour moi... C'est pas ça qui empêche les gens. Et puis, il y a un autre élément, ça veut dire que ces personnes sont beaucoup optimistes. Parce qu'avoir qu'une seule source de revenus, ça veut dire que j'ai la conviction, je crois, que ce dans quoi je suis là peut pas mal tourner. C'est ça. Ou bien, je compte peut-être sur le fait qu'il y a une autre personne à côté de moi, et bien souvent, ça peut être ma compagne, qui a aussi une source de revenus, donc c'est une haute disponibilité actif qui fait que je peux être un peu serein, tu vois. Alors que des grands investisseurs, tu prendras comme Warren Buffett, te diront de faire ce qu'on appelle de la diversification.
Exactement.
De multiplier les sources de revenus.
Il faut avoir un portefeuille,
oui,
assez diversifié.
Un portefeuille assez diversifié. Voilà ce qu'il va te demander. Et en le demandant, c'est effectif. En fait, si tu veux, c'est un acte qui, on va dire, c'est la part d'une réflexion pessimiste parce que tu te mets dans le pire des cas en raisonnant, te dis, et si jamais ce qui est là ne marche pas, comment je fais? Donc, tu fais une analyse, on va dire, qui est... En fait, si tu veux, comment on va dire ça? C'est un business plan aussi, hein, ou si tu veux, c'est un... Oui, un plan de risque, voilà, un risk plan. C'est-à-dire, tu te mets, ah, mais si ça ne marche pas, comment je fais? Et puis, tu te rends compte que si ça ne marche pas, tu ne peux rien faire, tu es bloqué. Donc, tu commences à réfléchir à comment tu peux faire pour te sécuriser au cas où ici, ce n'est pas bon. Même dans les bâtiments, on met une porte de secours. Mais le gars, il n'a pas de porte de secours. Mais parce qu'à aucun moment, il n'a pensé que la pire des choses puisse arriver, tu vois. Et c'est ça. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui peut motiver quelqu'un à se dire, il faut que je me lance, il faut que j'apprenne à le faire. C'est pour ça que vous allez remarquer que quand tu n'apprends pas à faire ces choses, au cas où il y a une crise ou quelque chose qui frappe, le seul élément que tu as en main, c'est très souvent de chercher à avoir un autre boulot. Alors que les personnes qui ici sont déjà initiées vont chercher, on va dire, à affiner ou développer peut-être ce qu'elles ont déjà commencé à créer. Tu vois. Donc moi, le conseil que je serais en train de donner à un employé qui n'a pas de business et qui a son seul truc, c'est de réfléchir soit à entreprendre quelque chose ou à investir dans quelque chose qui pourrait lui rapporter de l'argent, un revenu passif, même si la personne se retrouvait en train de ne rien faire. Voilà. Okay. Ça, c'est pour l'employé.
D'accord.
Maintenant, on parle de la personne qui a créé son entreprise. Voilà. Et puis, bon, qui truc. Je dirais, on ne peut pas prévoir forcément à quel niveau est-ce que la crise viendra. Parce qu'il y a des crises qui paralysent tout le monde. Ici, on parle d'une crise sanitaire qui touche à certains domaines, le domaine du transport, le domaine de l'aviation, le domaine de la restauration, certains domaines, l'hôtellerie, tout ça. Mais il y a certains domaines qui ne sont pas touchés totalement. Il y a certains domaines qui se développent un peu plus, qui sont beaucoup plus porteurs en ce moment-là. Voilà. Donc, il pourrait avoir une crise, ou ça aurait pu être une crise, qui immobilise aussi tout le monde. C'est-à-dire, aucun domaine ne peut être porteur en ce moment-là. Donc, ça n'aurait peut-être pas été une crise sanitaire, ça aurait pu être une guerre. La guerre, pendant qu'il y a la guerre, personne ne peut travailler. Donc, pour dire que quelqu'un qui est déjà dans l'entrepreneuriat, en fonction du type de crise, si la personne n'a qu'un seul business, il y a de fortes chances que son seul business, si la personne est dans le domaine de l'alimentation ou de la restauration, soit attaquée et puis c'est fini. Donc, c'est pour ça qu'on va revenir au conseil de tonton Warren Buffett en disant, même quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, à un moment, il faut diversifier. On aurait pu être sur ce podcast-là. J'allais vous dire, ah, mais finalement, j'ai trouvé le filon pour mon entreprise de nourriture. Ça marche bien, tout en temps. Et puis, une semaine après, on annonce qu'il y a le Covid. Et puis, vous me reprenez un mois plus tard, vous me dites, ah, mais ton business de nourriture, là, c'est comment, de livraison de repas. Je vous dis, ah, les gars, le truc est mort.
C'est mort.
C'est pas de ma faute. C'est un cas majeur qui se produit, qui fait que les choses ne marchent plus. Par contre, si j'avais diversifié avec des formations que je mets en ligne et la vente de livres, vous verrez que pendant cette période, des gens ont plus le temps de lire des cours en ligne. Les gens seraient allés acheter des cours en ligne. Le pic allait beaucoup plus monter. J'allais être aussi dans une posture où j'ai un peu plus de temps pour faire du battage, qui est une technique marketing pour beaucoup plus en parler. Et puis, j'allais avoir plus d'audience, donc j'allais avoir peut-être aussi plus d'argent. Donc, j'allais peut-être pas sentir parce qu'il y aurait eu un équilibre. C'est pour ça que la diversification, elle est très importante. Donc, le message à l'endroit des entrepreneurs, c'est de se diversifier. Et se diversifier, ça veut dire faire des choses pas forcément relatives au même domaine, mais pouvoir toucher également d'autres domaines. Voilà. Et puis bon, quand la crise arrive, tu peux avoir la chance de voir que tous les domaines que tu couvres ne sont pas impactés et qu'il y a un qui peut être un peu plus porteur. Aujourd'hui, tous ceux qui se retrouvent dans la position où ils font des livraisons, donc des entreprises qu'on qualifierait comme un Glovo, si je peux citer, bon, ils font du chiffre parce que les gens ne veulent pas se déplacer, ils veulent que les trucs leur soient livrés, ils n'ont pas envie d'aller dans les grandes surfaces, ils n'ont pas... leur business tourne. Hein. Ah, ils continuent. Voilà, c'est ça. Voilà un peu.
En effet.
Ce qui est très clair, d'ailleurs.
Je suis totalement d'accord avec toi, Prince. Je suis totalement d'accord. Mais malheureusement, nous sommes quasiment à la fin de notre podcast. Donc, je vais te demander ton mot de fin. Mais dans ton mot de fin, j'aimerais aussi que tu nous donnes une sorte de conseil, c'est-à-dire ton top 3, c'est-à-dire les 3 livres que tu conseillerais, des must-read pour un entrepreneur. 3 livres que tu conseillerais qu'un entrepreneur devrait lire.
OK. Je ne vais pas vous conseiller des livres que je n'ai jamais lus, mais je vais conseiller les 3 livres qui ont... Permettez, hein, c'est vrai que souvent on peut se la jouer et puis vous conseiller de lire certains livres spirituels. Non, je ne dirais pas ça. Mais je vais vous conseiller 3 livres qui ont changé ma mentalité quant à la perception de l'entrepreneuriat, la finance. Et ça, je le dis avant peut-être le mot de fin, carrément, vu que vous avez demandé. Et aussi, avant de dire, il faut que je dise qu'on ne lit pas parce qu'on aime lire. Ce n'est pas l'amour de la lecture qui est l'essence ou l'élément fort qui nous pousse à lire. Non, on lit parce qu'on recherche une information. On cherche à avoir le résumé de l'expérience de quelqu'un. Et si ça ne se trouvait pas dans les livres, ce n'est pas les livres qu'on aurait lus. Si ça se retrouvait dans les chansons, moi, ce sont des chansons que j'aurais écoutées. Si ça se retrouvait... qu'à la télé, c'est la télé seulement que je vais regarder. Mais malheureusement, heureusement, ça se trouve dans les livres. Donc, c'est pour ça que je lis. Donc, je ne lis pas parce que j'aime lire. Et donc, on ne lit pas par amour pour la lecture. Mais on lit parce qu'on a besoin d'avoir une information. Donc, il ne faut pas que quelqu'un se prenne pour prétexte « je n'aime pas la lecture ». Non, ce n'est pas ça. On n'a pas tous aimé aller à l'école. Lorsque nous étions petits, même, on nous y a, pour certains, on nous y a forcé. Mais l'objectif était qu'on puisse « get knowledge », obtenir la connaissance. Et puis, par la suite, tu vas t'apercevoir que ce n'est pas si mauvais de le faire parce que tu t'y retrouves. Comme quelqu'un pourrait le dire, l'appétit vient en mangeant. À force de forger, on devient forgeron. À force de jongler, on devient jongleur. À force de lire, on peut devenir libraire. C'est ça que tu veux. Donc, c'est-à-dire, on peut finir par aimer parce qu'on cite. Donc, l'amour n'est pas l'élément qui nous pousse d'abord à faire. L'amour peut venir après. Voilà. Ça, c'était pour préciser. Donc, les trois livres. Le premier livre, c'est le Tonton Robert Kiyosaki. Permettez-moi de dire l'auteur. Père riche, père pauvre. C'est ce livre que je conseillerais en premier. Je demanderai aux personnes, aux gens, de lire, même s'ils n'aiment pas lire. Parce que moi, je n'ai pas. Ce n'est pas parce que j'aimais lire que j'ai lu. J'ai lu juste parce qu'on m'a dit que je pouvais voir des informations qui sont bien. Et je salue au passage mon ami Eba Kanga Serge. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est le livre de Tonton Robert Kiyosaki, que je conseille encore, qui s'appelle Le cadran du cash flow, dans lequel il vous met à gauche ce qu'on appelle les employés et les travailleurs autonomes. Et du côté droit du cadran du cash flow, il vous met les entrepreneurs et les investisseurs. Okay. Et il dit, pour passer du côté gauche au côté droit, il y a des choses à savoir. Si vous voulez savoir, vous lisez ce livre. Le troisième livre que je conseillerais, c'est encore un livre de Tonton Robert Kiyosaki. Wow. Il a la primeur aujourd'hui. Et ce livre-là, c'est Guide pour investir. Un livre de pratiquement 500 pages. Wow. Ce n'est pas, encore une fois, je le dis, ce n'est pas l'amour de la lecture, mais c'est parce que tout le monde, tu dois te dire, mais attends, qu'est-ce qu'il a pu bien écrire dans ce livre-là qui puisse faire 500 pages? Ça veut dire qu'il y a des secrets qui sont cachés, minores. Et, il faut pouvoir se dire que je ne veux pas être de ceux qui de ceux à qui on dit ou pour qui on dit, si on veut cacher une information en noir, on le met dans un livre. Et donc, pour le mot de fin, tout en vous remerciant, je dirais aux personnes qui ont pris le temps et qui prendront le temps d'arriver jusqu'à la fin de ces podcasts, d'accepter d'échouer. Voilà mon mot de fin.
Ok, ce qui est bien dit. Il faut accepter d'échouer, il faut accepter de se réinventer, et puis surtout, il faut beaucoup lire, parce qu'il faut lire pour pouvoir acquérir la connaissance. Donc, merci bien Franck, merci à Prince, notre invité de ce jour, on n'a pas vu le temps passer, on a vraiment apprécié ton partage d'expérience. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode aussi intéressant et aussi palpitant que celui-ci. C'était Marc, André et Franck pour le podcast Ivoire Talent. À bientôt.